France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. La tempête Niels qui paralyse une partie du sud de la France. Un mort dans les Landes la nuit dernière et 900 000 foyers privés de courant. C'est le cas de Stéphanie en Haute-Garonne.
Quand on s'est réveillé vers 6h, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas d'électricité. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était général. On a commencé à checker un petit peu auprès des voisins, etc. Et puis de prendre connaissance de l'ampleur.
Nous verrons quels sont les départements les plus touchés par ces coupures. Nous nous demanderons aussi pourquoi il y en a autant. Nous serons dans les départements les plus concernés. Pyrénées-Orientales, Lot-et-Garonne ou encore Hérault. Le trafic des trains est très difficile également aujourd'hui. Risque d'avalanche en montagne. La Savoie, classée rouge. Deux morts hier dans le département du Puy-de-Dôme dans un exercice de secours qui a mal tourné. On va vous expliquer. Et puis les prévisions météo complètes évidemment dans une demi-heure. À suivre encore, la stratégie énergétique de la France dévoilée ce matin et le coup de frein sur les énergies renouvelables qui est confirmé. Notre rendez-vous avec les élections municipales. Question en haut de la pile, le logement. Ce sera avec Maxence Lambrecq, un intérimaire de chez Dassault en garde à vue pour des soupçons d'espionnage avec des lunettes caméra. Et puis une 8e médaille pour l'équipe de France aux Jeux d'hiver Milan-Cortina. Bonjour Nicolas Perronnet.
Bonjour Jérôme.
En super G pour Roman Miradoli.
24 ans que le ski alpin féminin tricolore l'attendait, cette médaille. Roman Miradoli l'a fait à Cortina, médaille d'argent, qui veut dire beaucoup pour toute l'équipe de France féminine.
On va vous retrouver en direct dans quelques minutes. On parlera aussi de ce sportif ukrainien disqualifié car il voulait concourir avec des images d'Ukrainiens tués par la guerre. À partir de 13h30, un roman pour réhabiliter l'histoire de sa grand-mère. C'est la trame du livre que publie la philosophe albanaise Léa Lippi. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h50, c'est la France. Les bouillons. Ces restaurants typiquement parisiens qui fleurissent partout en France. Ce sera avec Marie-Luce Ribaud du journal Sud-Ouest. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson. La chanteuse Raphaël Lanader au micro de Julien Baldacchino. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
C'est donc une journée très éprouvante pour les habitants d'une large moitié sud aujourd'hui. Vent, crue, coupure d'électricité, route coupée, conséquence de la tempête Niels. Bilan pour l'instant, un mort, département des Landes, 900 000 foyers privés de courant. La tempête est telle que 5 départements se retrouvent en vigilance rouge. Gironde, Lot-et-Garonne pour les crues, Aude, Pyrénées-Orientales pour le vent et Savoie pour les avalanches. On va détailler les dégâts ensemble. D'abord, allons en Occitanie, justement dans les Pyrénées-Orientales. J'en parlais avec un fort coup de vent à Perpignan. Anecdotique, les poteaux du stade Aimé Giral de la ville, poteaux de rugby, ont cédé la nuit dernière à cause du vent. Ça vous dit un peu ça vous donne une idée de la violence de ce vent. Et dans le quartier du Haut-Vernay, au nord de la ville, plusieurs arbres ont chuté à tel point qu'une centenaire est bloquée chez elle à cause de ces chutes. Sa fille est coincée devant la maison. C'est Alice Fabre qui nous raconte la suite.
Monique est rongée d'inquiétude. Une rafale de vent a fait chuter l'arbre du jardin sur le portail de la maison de sa mère qui a 100 ans. L'accès à l'habitation est complètement bloqué.
Ma mère est alitée, elle a besoin de soins. Et évidemment, comme l'arbre est tombé sur le portail, personne ne peut rentrer. Donc, pas de médicaments, pas de toilettes, pas de repas. Elle est enfermée toute seule chez elle et elle ne peut pas bouger, elle doit se demander ce qui se passe.
Elle lance un appel sur l'antenne d'ici Roussillon. Bernard, le voisin, arrive avec sa disqueuse pour créer un passage dans la clôture. Un habitant qui passait par là a écouté la radio est aussi venu prêter main forte.
Bon, écoutez, j'habite pas loin, j'ai entendu le message de madame qui parlait de sa maman et voilà. J'ai vu sur le GPS que j'étais à 100 mètres, donc je suis venu voir.
Le passage est finalement ouvert, Monique se précipite dans la maison. Sa mère va bien.
Ça va ? T'as pas eu peur ? C'est parce qu'on a une tempête et donc on ne pouvait plus ouvrir.
J'avais peur, j'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. Voilà, il ne manque plus qu'à s'occuper de cet arbre.
Monique peut désormais rester avec sa mère et surveiller les autres arbres du jardin qui menacent eux aussi de chuter.
Reportage ici Roussillon, dans ce département des Pyrénées-Orientales. Toutes les entrées d'autoroute sont fermées par mesure de sécurité. Il n'y a pas de transport scolaire. Même chose dans le département voisin de l'Aude. D'ailleurs, tous les établissements scolaires y sont fermés aujourd'hui. Pas de transport à Narbonne ni à Carcassonne. Même cause, mêmes effets dans le département de l'Hérault, avec cette image particulièrement spectaculaire dans le port de Sète. Une grue de 550 tonnes est tombée sur un cargo céréalier. Il n'y a pas eu de blessés, fort heureusement. Écoutez Olivier Carmès, c'est le directeur du port de commerce de Sète.
Le frein a lâché et donc elle a roulé sur les rails avec le vent qui était plein ouest, en plein dans l'axe de cette grue. Sur les rails se trouvait à un moment donné une autre grue qui s'appelle une grue Liébert qui était positionnée pour décharger le bateau. Et donc elle a s'est heurtée à cette grue et on pense que c'est au moment de ce contact avec cette grue qu'elle a basculé pour effectivement s'effondrer sur le navire. Maintenant, on va faire intervenir des spécialistes qui vont nous donner un avis. On est évidemment extrêmement vigilants. Bon, après, le quai n'a pas été touché, il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça, mais le démantèlement total, ça peut être 15 jours, 3 semaines. Donc voilà à peu près le délai qu'on imagine.
Et ce type de grue coûte près de 3 millions d'euros, toujours pour l'Hérault qui est en vigilance orange. La préfecture interdit aux poids lourds de plus de 7,5 tonnes d'y circuler. Conséquence, ces camions sont bloqués dans le département voisin du Gard. Ils sont plus de 2000 immobilisés sur la voie de droite et sur la bande d'arrêt d'urgence. Ça concerne la 9 et la 54. Intéressons-nous maintenant au sud-ouest avec deux problèmes. Le vent, 160 km/h en pointe la nuit dernière à Biscarrosse dans les Landes. D'ailleurs, près de Dax, un chauffeur poids lourd a été tué par la chute d'un arbre sur son camion. Plus au sud, dans le Pays Basque, l'autoroute A64 est coupée à la circulation en raison, là encore, de chutes d'arbres. Et puis, il y a les forte pluie et ces fleuves et rivières qui sont en crue, notamment la Garonne. Et on vous retrouve, Erwan Chassin, vous êtes à Couture-sur-Garonne, département du Lot-et-Garonne. Bonjour Erwan.
Bonjour.
Et le fleuve n'en finit pas de gonfler.
Oui, la Garonne ne ressemble plus vraiment à un fleuve, mais à un immense lac aux eaux marrons et tourbillonnantes dont on ne perçoit plus vraiment le contour des berges.
Ça tourne. Allez, on est parti. Et on en a pour une heure aller-retour.
C'est pourtant ses eaux que le maire de la commune, Jean-Michel Moreau, qui effectue son dernier mandat.
Votre dernière crue.
Voilà, c'est pas ma dernière crue. En tant que maire, voilà.
Se prépare à braver en bateau.
On va voir cette personne et on va essayer de voir s'il n'a pas de problème. Mais c'est une personne qui a plus de 90 ans et qui malheureusement a décidé de rester chez elle. Il vaut mieux aller s'assurer de voir quelle est la situation et puis après on verra.
Lui et d'autres font partie de l'association des sauveteurs de couture qui ne sont pas très impressionnés par cette crue.
C'est notre vie, donc on l'accepte.
Dans le village, en fait, on est habitué à la colère de la Garonne et ses inconvénients, explique au bord de l'eau Jessica.
Vu qu'on est coupé du monde, on va dire, on n'a pas d'électricité depuis hier soir, 21h même, 22h, ouais.
Et comment vous le vivez ?
Bien, nous on est cool.
Ce matin, jusqu'à 70 000 foyers ont été privés d'électricité dans le département.
Et comment s'est passée la matinée dans le département, Erwan ?
Eh bien, il y a eu ce vent qui continue de souffler, dont les rafales les plus puissantes ont atteint dans la nuit les 120 km/h. Avec comme conséquence, selon la préfecture du Lot-et-Garonne, en plus d'importantes coupures de courant qui mobilisent 50 agents, la coupure de l'ensemble du trafic des trains dans le département, et ce jusqu'à nouvel ordre. En fait, cela vient de nombreux obstacles sur les voies, comme des branches ou des troncs d'arbres. Pour l'instant, pas de victimes dans le département. Et le vent violent, lui, doit cesser ce soir vers 19h.
Erwan Chassin dans le Lot-et-Garonne pour Inter. Le trafic des trains est interrompu donc dans ce département du Lot-et-Garonne. Il est très perturbé dans l'ensemble du sud-ouest. Depuis Paris, les trains s'arrêtent à Bordeaux, ne vont pas plus loin. Circuler en tram dans Bordeaux est également très compliqué. Et puis en Charente, à La Rochefoucauld, la montée de la rivière Tardoire a obligé à l'évacuation d'un EHPAD. Ses 66 résidents sont à l'hôpital. Conséquence également, je vous le disais, ces 900 000 foyers privé de courant, ça veut dire plusieurs millions de Français. Grosse pression sur Enedis qui gère le réseau électrique en France. Vous êtes en direct de son siège parisien. Bonjour Faouzi Trita.
Bonjour.
Vous avez eu la carte de France des difficultés pour l'alimentation en électricité. Où se concentrent les difficultés, Faouzi ?
La carte d'Enedis est un peu plus claire. Les difficultés se concentrent dans un large quart sud-ouest de la Nouvelle-Aquitaine à l'Occitanie. Vous tirez en fait un trait entre Bordeaux et Montpellier. C'est aussi, il y a aussi pas mal de difficultés dans l'Allier, l'Isère, le Puy-de-Dôme. Enedis, Jérôme, qui compare cet épisode à la tempête Ciarán, c'était en Bretagne en 2023, et à la tempête Klaus en 2009, c'était dans le sud-ouest.
Enedis qui mobilise donc ses équipes.
À l'heure où on parle, il y a 1400 agents qui sont déjà sur place et 1500 renforts de toute la France qui se dirigent actuellement vers le Grand Sud-Ouest. Ils ont avec 260 groupes électrogènes et du matériel. Hervé Champenois est directeur crise à Enedis.
Bien sûr, on les a acheminés et ils disposent de camions nacelles pour pouvoir intervenir en haut des supports, de matériel pour réparer les câbles, de poteaux aussi si c'est nécessaire. Ce que l'on appelle les armements, c'est ce qui permet de tenir les câbles électriques sur les lignes.
Il y a aussi une dizaine d'hélicoptères qui sont mobilisés. Ils n'ont pas encore pu décoller à cause du vent. Un vent qui souffle parfois jusqu'à 160 km/h. Ces hélicoptères qui auront pour mission de repérer les incidents et de guider les agents sur place pour les aider à se frayer un chemin entre les routes coupées, Jérôme, et les champs gorgés d'eau.
Ça fait 500 000 clients privés de courant en Nouvelle-Aquitaine, un peu plus de 300 000 en région Occitanie. Pourquoi est-ce qu'il y en a autant, Faouzi Trita, sachant qu'une partie du réseau est désormais enterrée ?
Il faut savoir que sur le territoire, c'est 50% du réseau électrique qui est enterré. Mais il n'y a pas de solution miracle, nous dit Enedis. En l'espèce, les inondations ont un gros impact. Les câbles sont reliés à des postes électriques qui, eux, sont à la surface. Ils prennent l'eau, ils privent de courant les foyers. Cette combinaison entre les pluies et les rafales de vent qui font tomber les poteaux explique qu'il y ait autant de foyers privés d'électricité. D'ailleurs, c'est pour cela que Enedis ne s'est pas avancé pour l'instant pour annoncer un retour à la normale.
Faouzi Trita en direct du siège d'Enedis à Paris avec les moyens techniques de Selim Guerribi. Autre région sous haute surveillance aujourd'hui, ce sont les Alpes avec un très fort risque d'avalanche. La Savoie en vigilance rouge. Le risque est classé à 5 sur 5 dans de nombreux massifs des deux Savoies. La station de la Plagne est même fermée, ainsi qu'une grande partie des domaines de Chamonix, Flaines, ainsi qu'une partie de Courchevel, tout cela en pleine vacances scolaires. Dans ce contexte, les secours jouent un rôle majeur et ils ont payé un lourd tribut. Hier, dans un autre massif, le massif du Sancy, nous sommes en Auvergne, une médecin du SAMU ainsi qu'un pompier ont fait une chute mortelle lors d'un exercice d'entraînement. Ils étaient élitreillés par un hélicoptère, donc, quand le filin qui les retenait a rompu. Récit de Juliette Micheneau.
Des logos, des casques de pompiers barrés de noir, partout sur les réseaux sociaux s'expriment la douleur et la tristesse des forces de secours. Après le décès de Maxime Pilitieri, 36 ans, pompier professionnel de Haute-Loire, spécialisé dans le secours en milieu périlleux, et Sophie Fleurquin, 30 ans, jeune médecin du SAMU de Clermont. Elle allait passer le concours de praticien hospitalier dans quelques jours, dit la Société française de médecine d'urgence qui lui rend hommage. Le CHU clermontois a lui mis en place un dispositif de soutien psychologique pour ses collègues. En Haute-Loire, le préfet rencontre aujourd'hui les pompiers du département avec le directeur général de la sécurité civile. Suite à cet accident, le parquet de Clermont a ouvert une enquête pour homicide involontaire. On sait qu'ils étaient quatre à bord de l'hélicoptère Dragon 63 pour cet exercice. Les deux victimes étaient suspendues à l'appareil, treuillées par un filin. Quand une manœuvre imprévue, c'est ce que dit le procureur, a provoqué la rupture de ce filin et entraîné une chute mortelle. L'enquête devra donc éclaircir les facteurs techniques, humains et météo du drame.
Précision ici, pays d'Auvergne. Nous parlions de l'électricité il y a un instant. À ne pas confondre avec l'énergie, c'est bien de cela dont il est question dans le Jura aujourd'hui. Le Premier ministre Sébastien Lecornu en visite sur les barrages hydroélectriques de Saumortier et de Vouglan pour annoncer la programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est-à-dire la part de chaque filière dans la production d'énergie en France pour les 10 prochaines années. C'est vous qui suivez ces annonces sur place. Bonjour Alexis Morel.
Bonjour Jérôme.
Alors que contient cette feuille de route ? C'est finalement une copie, comme attendu, qui est très pro-nucléaire.
Oui, pour gagner en souveraineté énergétique, réduire la dépendance au gaz et au pétrole importé et produire plus d'électricité, eh bien c'est d'abord et avant tout sur l'atome que mise le gouvernement. 4 ans après le discours d'Emmanuel Macron à Belfort, on pousse les curseurs à fond sur le nucléaire avec des objectifs très ambitieux de hausse de production, plus ambitieux même que ce qui était prévu l'an dernier à l'ouverture des débats sur cette programmation pluriannuelle de l'énergie. Et c'est le parc actuel de réacteurs qui devra porter cette hausse d'ici à 2035. Car les 6 nouveaux EPR annoncés et confirmés ne sont pas attendus, eux, avant 2038.
Et sur les renouvelables, on sait, Alexis, que c'est le sujet sensible. Ce n'est pas un hasard si le Premier ministre a choisi un barrage pour présenter cette stratégie.
Oui, on est ici dans la vallée de l'Ain avec cet imposant barrage de Vouglan, 100 mètres de haut, 400 de large, barrage qu'a visité le Premier ministre ce matin.
Globalement, une séquence de production peut durer combien de temps, un minimum ? Alors, ça peut être un quart d'heure pour une pointe, ça peut être un quart d'heure, 20 minutes, voilà, ou on est sur un...
de ne jamais démarrer une turbine.
L'hydroélectricité, c'est l'énergie renouvelable la plus consensuelle qui ne fait pas débat. Elle sera relancée. Mais pour les autres, éolien, solaire, que dit cette PPE? Pas de moratoire, pas de coup d'arrêt, mais un coup de frein quand même. Sur le photovoltaïque, le développement va se poursuivre, mais moins rapidement, moins fortement. On a produit 6 gigawatts l'an dernier grâce aux panneaux solaires. Cette programmation pluriannuelle ne prévoit que 3,5 gigawatts d'ici 2030 chaque année. C'était le minimum syndical réclamé par la filière. Mais c'est vraiment, Jérôme, sur l'éolien terrestre que ce coup de frein est le plus significatif, hein, puisque le gouvernement veut surtout renforcer la puissance des éoliennes actuelles plutôt que d'en construire des nouvelles.
Merci Alexis Morel. Restez avec nous. J'aurai encore une question pour vous dans un instant. Vous nous parlez de ce coup de frein sur les renouvelables. Manifestement, ça n'est pas encore assez, notamment pour le Rassemblement National. Bonjour Lise Rosveil.
Bonjour.
Qui s'oppose à cette stratégie, toujours trop d'éolien et trop de solaire aux yeux du parti de Jordan Bardella. Il faut dire qu'il y a aussi un calcul politique derrière pour diviser le parti Les Républicains. Expliquez-nous ça.
Eh bien, le RN le sait, l'énergie est un sujet porteur pour son électorat et celui des LR, un sujet de colère. Les éoliennes notamment crispent sur le littoral en pleine campagne municipale. Le parti de Marine Le Pen veut donc en profiter pour conquérir de nouveaux électeurs. Il prépare un recours devant le Conseil d'État contre la PPE et menace de censurer le gouvernement. Une motion de censure qui n'aurait aucune chance d'aboutir, le parti le reconnaît, mais qui aurait une portée politique. On réfléchit aux arguments pour mettre en porte-à-faux les Républicains, glisse un cadre. Le parti veut insister sur les incohérences et les divisions chez LR. D'un côté, les députés du groupe valident la copie du gouvernement. À ce stade, ils n'envisagent pas de censurer. Mais d'un autre côté, Bruno Retailleau, le patron des LR, tacle la PPE dans une tribune dans l'Opinion. Il exige la fin des subventions aux énergies renouvelables, un poids financier pour le mix électrique français, dit-il. Lui, le sénateur de Vendée, terre d'accueil de nombreux parcs éoliens, justement, la dimension électorale n'est jamais loin.
Alexis Morel, on vous retrouve en direct du Jura. Alors, on entend les critiques et les menaces du Rassemblement National. Je crois que le Premier ministre a répondu par avance ce matin.
Oui, en faisant un parallèle historique avec le grand plan d'électrification de Pierre Messmer dans les années 70 qui provoquait, selon Sébastien Lecornu, exactement les mêmes critiques que celles qu'il a entendues ces derniers mois et ces derniers jours.
Avec des réactions un tout petit peu épidermiques sur la base de chiffres qui n'étaient pourtant pas encore publics parce qu'on va les publier dans un instant. Un rapport à tout cela qui est très court-termiste. Alors que le débat de ce matin, il va nous amener à nous poser des questions pour dans 4-5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, en fonction évidemment des décisions que nous allons prendre. L'électrification du pays, par la demande, par la consommation, passe aussi par l'offre. Et c'est ce que certains ne veulent pas comprendre dans ce débat public.
Et malgré ces critiques, le décret actant officiellement cette feuille de route énergétique sera publié demain matin au journal officiel.
Alexis Morel en direct du Jura avec les moyens techniques de Benjamin Thuot. Des nouvelles de l'enseignante poignardée la semaine dernière dans le Var à Sanary-sur-Mer. Elle est sortie de soins intensifs, même si son pronostic vital est toujours engagé, nous dit le procureur de la République de Toulon, qui ajoute qu'elle a repris connaissance et que son état de santé évolue positivement. Les municipales. Les clés des municipales, c'est notre rendez-vous chaque semaine avec vous. Bonjour Maxence Lambrecq.
Bonjour.
Pour tout savoir des enjeux de ce premier tour, un peu plus d'un mois maintenant, puisque ce sera le 15 mars, la question du logement est au cœur de la campagne, parce que partout, ou presque, il en manque. Première question pour vous Maxence. Les maires ont-ils intérêt à construire des logements?
Eh bien non, ça coûte cher et ça rapporte peu. Ça coûte cher non pas en briques ou en parpaings, cela coûte en infrastructures municipales. Plus d'habitants, c'est plus de moyens pour les accueillir et ça rapporte peu puisque la taxe d'habitation a été supprimée. Et donc certains résument la situation ainsi. Si tu veux perdre du fric, construis des logements sociaux. Si tu veux en gagner, des résidences secondaires. Parce que eux ne demanderont pas de place en crèche, pas d'aide du CCAS. Ils paieront la taxe foncière et la taxe d'habitation, ce sont les derniers à s'en acquitter. En plus, les élus ont du mal à construire.
C'est-à-dire ?
Allons dans le centre de Chambéry, près de l'avenue Jean Jaurès. Il y a 10 ans, un projet d'immeuble, 600 pétitionnaires contre. La mairie fait modifier un peu le projet et insiste, ça sort de terre, des gens s'y installent et voilà qu'aujourd'hui, ils se mobilisent contre un projet de construction juste à côté, oubliant qu'ils ont bénéficié du dernier. Maintenant, le maire réunit tout le monde avant de signer le moindre permis de construire, sinon ça part en bagarre judiciaire. Il enlève un étage, il ajoute des arbres, mais il il constate à quel point l'acceptabilité diminue. Lui qui est aussi Thierry Repentin, monsieur logement à l'Association des maires de France. Il faut, dit-il, réhabiliter l'acte de construire, devenu impopulaire. Les logements sociaux, tout le monde reconnaît qu'il en manque, mais combien acceptent d'en voir fleurir à côté?
D'ailleurs, est-ce que l'application de la loi SRU avance? Qui impose 20 à 25% de logements sociaux?
Oui, pendant ce mandat, il y a eu de fortes progressions à Montpellier, notamment record de France, à Paris aussi, à Lyon, dans des endroits où il n'y a pourtant pas de foncier, pas de terrain, mais où les villes rachètent des logements, des bureaux. Seules les grandes métropoles ont l'argent pour ça. Le socialiste Emmanuel Grégard promet à Paris 60 000 nouveaux logements publics. Hein, les mauvais élèves restent des villes de droite, comme Boulogne-Billancourt, Nice, Toulon. Elles sont nombreuses le long de la Méditerranée, entre stratégie électorale et réelle contrainte environnementale ou géographique. Les professionnels estiment que cette loi SRU a permis la construction de la moitié du parc social depuis l'an 2000 et le dispositif continue d'évoluer. Le mois dernier, Toulouse, Caen, Dijon notamment ont obtenu une dérogation, un décret qui n'accentue pas leurs obligations.
Et l'autre mesure phare, Maxence, c'est l'encadrement des loyers.
Un gros sujet de clivage dans cette campagne, 70 communes l'appliquent pour ou contre. À Lyon, Jean-Michel Aulas, candidat LR Renaissance, promet de l'abandonner. Il préférerait une charte de modération des loyers. À Bordeaux, l'écolo Pierre Urmic, qui l'a mise en place il y a 4 ans, veut poursuivre.
En fait, si je résume, c'est un domaine où les maires ont vraiment le pouvoir.
Oui, ils ont des leviers, le plan local d'urbanisme, la surtaxe des résidences secondaires, leur construction interdite dans certaines zones grâce à une loi de 2024, Bayonne, Saint-Malo, Biarritz l'applique, la limitation des Airbnb, des meublés touristiques, 90 nuits maximum à Marseille par exemple. Mais pour le reste, le marché du logement leur échappe, la capacité de financement des organismes HLM, le taux de TVA appliqué, la fin du dispositif Pinel, le niveau des APL. Ils craignent de récupérer pleinement cette compétence, Emmanuel Macron le souhaite, sans en avoir les principaux leviers.
Les clés des municipales avec Maxence Lambrecq, chaque semaine dans ce 13-14 et à retrouver sur l'application France Inter.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Un casque avec des images d'Ukrainiens tués par les Russes. Voilà le casque que voulait utiliser le sportif ukrainien Vladislav Eraksevich lors de l'épreuve de Skeleton, épreuve des JO d'hiver qui consiste à descendre un couloir de glace sur une planche. Mais c'était hors de question pour le CIO, le Comité International Olympique, qui ce matin a décidé de le disqualifier, Jérôme Val.
Oui, à cause d'un casque gris avec dessus les visages de sportifs tués, une légende inscrite, c'est le prix de notre dignité. Hommage que Vladislav Eraksevich voulait rendre à ses athlètes victimes de la guerre contre la Russie. Le CIO a refusé, lui a proposé à la place de porter un brassard noir. Mais l'Ukrainien s'est présenté ce matin en haut de la piste de Skeleton à Cortina avec ce casque attendu par la présidente du CIO en personne qui a voulu négocier avec lui une dernière fois sans parvenir à lui faire changer d'avis. Vladislav Eraksevich est donc disqualifié. Un sentiment de vide, a-t-il sobrement déclaré son entraîneur à côté de lui en larmes.
Je ne voulais pas créer de scandale. Vraiment, ce n'était pas mon intention. Il est uniquement le fait du CIO et de son interprétation spéciale de la règle que beaucoup de gens considèrent comme discriminatoire. Je ne pense pas que porter un casque qui honore la mémoire des morts contrevienne aux règles de l'olympisme.
La présidente du CIO, Kirsty Coventry, assure avoir pris cette décision à regret. Le problème, explique l'instance organisatrice de ces JO, n'est pas le message, mais le lieu où l'athlète souhaitait l'exprimer. Vladislav Eraksevich annonce de son côté vouloir saisir le tribunal arbitral du sport.
Jérôme Val, l'un de nos envoyés spéciaux en Italie. On va revenir au jeu dans les prochaines minutes avec cette nouvelle médaille française en ski. Mais avant cela, cette déclaration qui fait polémique, elle est attribuée à l'italienne Francesca Albanese, rapporteuse spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens. Elle s'exprimait sur la guerre entre Israël et le Hamas. La France demande aujourd'hui sa démission. Bonjour Ajra Mohamed.
Bonjour Jérôme.
Partons du point de départ. Qu'a dit Francesca Albanese? C'était samedi lors d'une conférence.
Oui, une conférence en ligne organisée par la chaîne Qatari Al Jazeera. Francesca Albanese intervient. Ça dure 4 minutes environ. Et voici l'extrait dont il est question aujourd'hui.
Le fait qu'au lieu d'arrêter Israël, la plupart des pays du monde, l'État armé, lui ait fourni des excuses politiques, un parapluie politique, ainsi qu'un soutien économique et financier, est un défi. Nous qui ne contrôlons pas de vastes capitaux financiers, ni les algorithmes, ni les armes, constatons désormais qu'en tant qu'humanité, nous avons un ennemi commun.
L'humanité a un ennemi commun, mais lequel? Eh bien, pour ses détracteurs, il n'y a aucun doute, elle parle d'Israël, l'État. Il accuse une nouvelle fois d'antisémitisme. Francesca Albanese, elle dément et dénonce, c'était hier sur France 24, une manipulation.
J'ai jamais, jamais, jamais dit Israël est l'ennemi commun de l'humanité. J'ai condamné comme l'ennemi commun le système qui ne permet pas d'amener en justice et d'amener à une cessation des crimes d'Israël, le système économique, le système financier et disons le système politique.
Alors, si ces propos peuvent prêter à différentes interprétations, Jean-Noël Barrot, lui, estime que Francesca Albanese est effectivement allée trop loin. L'italienne, qui, on le rappelle, est juriste en droit international, n'est ni experte ni indépendante. C'est une militante politique, affirme le ministre des Affaires étrangères. La France réclame donc son renvoi et rejoint ainsi une revendication portée par Israël et les États-Unis.
Merci, Ajra Mohamed. Que faisait un jeune intérimaire de chez Dassault dans une usine du groupe à Cergy? Mais avec des lunettes caméra sur le nez, ce jeune homme intervenait sur la chaîne d'assemblage de l'avion Rafale. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Et il a été placé en garde à vue pour des soupçons d'espionnage.
C'est un agent de sécurité qui a repéré les lunettes suspectes de son propriétaire, âgé de 19 ans, alors qu'il est interdit d'emmener dans les ateliers Dassault le moindre téléphone, le moindre appareil électronique susceptible de filmer quoi que ce soit. En interne, on attend de voir ce que les policiers vont trouver sur cet intérimaire durant sa garde à vue. Il a été embauché le mois dernier, selon nos informations, par une société spécialisée dans le montage des câbles, entreprise extérieure donc à Dassault. Un ouvrier qui vient donc travailler avec une paire de lunettes connectées qui vaut, on le sait, plusieurs centaines d'euros. La question est donc de savoir s'il a été approché récemment pour filmer des process classés confidentiels défense, même si ce n'est pas et de loin la partie la plus sensible du Rafale, avec des pièces ultra secrètes qui, elles, ne sont pas fabriqués à Cergy. Le fait qu'il s'agisse d'un intérimaire né au sud de Paris et qui réside dans le Val-de-Marne ne change rien au fait qu'il a normalement fait l'objet d'un criblage sur son profil de la part des services de l'État avant son embauche. En général, ça va du simple scan de sa présence sur des forums internet à beaucoup plus intrusif en cas de suspicion de fragilité financière, addiction ou autre.
Emmanuel Leclerc, des caméras, il y en a au jeu d'hiver, Milan-Cortina pour ne rien manquer, des exploits des sportifs et des sportives et d'une skieuse française ce matin. On vous retrouve en direct, Nicolas Perronnet de Cortina d'Ampezzo. La première médaille du ski alpin français dans cette quinzaine pour Roman Miradoli. Elle est en argent sur le Super G.
Et c'est la médaille de la persévérance, la médaille de l'ombre pour la Haute-Savoyarde. Hein, ces troisièmes Jeux Olympiques auront donc été les bons. Elle, la spécialiste de cette épreuve de vitesse, justement du Super G. Elle a été plus intelligente, plus propre, plus rapide que la plupart des favorites, hormis la championne olympique italienne. Et quelle histoire aussi, Federica Brignone, des favorites piégées par un tracé très technique. Elle y a toujours cru, hein, Roman Miradoli, malgré la traversée du désert du ski féminin tricolore depuis la retraite de Tessa Worley. Elle a toujours cru à ce rêve olympique, souvent dans les top 5 de la Coupe du Monde, mais rarement sur le podium. Elle vient d'y monter à l'instant sur ce podium olympique, le jour J, signant une performance historique pour le ski féminin français. Première médaille olympique depuis Carole Montillet et Laure Pequeño en 2002 à Salt Lake City. 24 ans d'attente donc, et même 34 dans sa discipline du Super G, où il faut remonter à 1992 et les Jeux d'Albertville pour retrouver une médaille, celle de Carole Merle, qui avait aussi, comme la Haute-Savoyarde, décroché l'argent.
Merci Nicolas Perronnet. Attention pour tous ceux qui ont des médailles de ne pas les fêter avec trop d'alcool. L'entraîneur principal de l'équipe finlandaise de saut à ski, le Slovène Igor Medved, a été exclu des Jeux après avoir enfreint les règles et valeurs de l'équipe en matière de consommation d'alcool, a annoncé son comité olympique il y a quelques minutes. Autre chance de médaille aujourd'hui, je reviens à l'équipe de France. Cette fois, nous sommes sur le site de Livigno. Pour l'équipe de France de snowboard cross, 4 Français en lice, dont 2 qui vont découvrir les Jeux Olympiques. Bonjour Emma Sarango.
Bonjour.
Ce sont 2 frères. C'est pas les frères Lebrun, ça c'est le tennis de table. Ce sont les frères Chollet.
Oui, il y en a un légèrement plus blond que l'autre, mais il y a plus qu'un air de famille entre Jonas, 17 ans, et Aidan, 21 ans. Et quand on demande à l'aîné de décrire son cadet...
Gentil, très bon glisseur, toujours enthousiaste.
Jonas est lui aussi très élogieux envers son aîné.
Très drôle, et il va vite au start, très tonique.
Des qualités qui leur ont permis de monter ensemble sur le podium de Coupe du Monde à Tchervin, il y a pas très loin d'ici, début décembre. Jonas, le cadet, sur la première marche. Aydan, l'aîné, sur la deuxième. Une prouesse qui les a qualifiés pour ces Jeux Olympiques où ils sont évidemment dans la même chambre.
C'est incroyable d'être ensemble ici. C'était le rêve de gosse quand même. C'est juste magique de vivre ça tous les deux.
Alors quand on voit qu'Aydan a pris la tête des qualifications ce matin et Jonas la quatrième place, on est évidemment tenté, Jérôme, comme vous, de les comparer aux frères Lebrun en tennis de table.
Ça fait plaisir parce qu'ils ont réussi à faire des trucs de ouf tous les deux. Si on arrive à faire pareil, c'est encore mieux, donc ça va être trop bien.
Les frères Chollet qui pourraient se rencontrer tout à l'heure en demi-finale et espérer prendre les deux premières places pour s'affronter en finale.
Merci Emma Sarango. On leur souhaite la même réussite que Guillaume Cizeron et Laurence Fournier-Baudry qui hier soir ont décroché l'or en patinage artistique suivi par 3,5 millions de téléspectateurs sur France 3. Un dernier mot de sport, la composition du 15 de France qui affrontera le Pays de Galles dimanche à Cardiff avec deux changements, deux trois-quarts centres tout neufs, les deux palois Fabien Brault-Boiry et Émilien Gailleton seront titularisés par Fabien Galthié. 13h30 sur Inter. À suivre dans quelques minutes et dans la prochaine demi-heure, la météo de Céline Dacosta. Puis à partir de 13h30, la philosophe Léa Huppi avec nous. Discours inaugural au Collège de France ce soir pour parler de l'Europe. Elle est l'une des autrices les plus en vue en ce moment autour de la réflexion sur la crise de l'Union européenne. Et puis ce roman Indignité pour réhabiliter sa grand-mère. La grande histoire et l'histoire intime qui se mêlent. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h45, notre feuilleton, les municipales en Bourgogne. Une halte à Chalon-sur-Saône aujourd'hui. Et puis 13h50, c'est la France. Marie-Luce Ribaud, Julien Baldacchino. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Marie-Luce, est-ce que vous êtes avec nous? J'en profite, on va vous retrouver dans un instant. Marie-Luce, vous allez nous parler des restaurants bouillons qui ouvrent un petit peu partout en France. Vous êtes peut-être adepte, Julien, je ne sais pas. Vous allez nous parler d'une chanteuse.
Oui, Raphaël Lanader qui présente une protest song, une chanson contestataire. Elle s'appelle Singing for Our Lives.
A tout de suite.
Chez Optique 2000, on sait que vous avez sûrement des vieilles lunettes cachées chez vous. Jusqu'au 15 mars, on vous offre 50 euros de remise immédiate sur une nouvelle paire si vous nous les rapportez. Allez, on vous laisse chercher. Dans votre tiroir fourre-tout ou dans vos vieux cartons qui dorment au fond du garage. Bref, si vous retrouvez vos vieilles lunettes, rapportez-les chez Optique 2000. Votre opticien vous offre 50 euros de remise immédiate sur votre nouvelle paire. Optique 2000, on va se revoir. Voir conditions en magasin, dispositif médical, demandez conseil à votre opticien.
France Inter, partenaire de la tournée des Misérables. La comédie musicale légendaire d'Alain Boublil et Claude-Michel Schoenberg a conquis plus de 130 millions de spectateurs dans le monde. Après son triomphe au Théâtre du Châtelet et récompensée du Molière du spectacle musical, elle revient au printemps 2026 pour une tournée exceptionnelle dans une mise en scène magistrale de Ladislas Chola. Les Misérables, en tournée à Lyon, Nantes et Lille, du 18 février au 26 avril, un événement France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso fabriquées en France et ses doses en papier naturel. À retrouver sur malongo.com.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Un ciel encore perturbé aujourd'hui.
C'est le moins qu'on puisse dire. La tempête Nils continue sa route, les rafales de vent sont encore importantes sur l'ensemble du pays. On a sur les trois quarts nord du pays un ciel de traîne, nuages, averses, éclaircies bien actifs avec des rafales qui peuvent aller dans les terres jusqu'à 80 km à l'heure. Et si on suit la chronologie de cette tempête, cet après-midi, on retrouve les rafales les plus violentes entre le littoral méditerranéen et la Corse, le Roussillon et la Corse. Hein, c'est là qu'on a les rafales les plus fortes entre 140-150 km à l'heure, voire plus. Et puis, dans la nuit de jeudi à vendredi, donc cette nuit, l'évacuation progressive vers la Méditerranée. L'amélioration devrait s'avancer progressivement par l'ouest en fin de journée, mais la vigilance reste de mise dans les zones les plus exposées. Et puis, demain, on aura à nouveau des perturbations. Elles seront deux. Elles vont se positionner sur l'ouest et le nord du pays en cours de journée. Et une autre remontera de la Méditerranée pour concerner les régions du sud-est dès la mi-journée. Donc, on n'en a pas fini avec les vigilances. Et justement,
5 départements rouges, 28 en orange.
Ouais, et c'est quasiment tout le pays qui est en alerte, à part 3 départements en vert, tout le reste est en jaune. Le vent ne s'arrête pas de souffler, ni la pluie de tomber aux frontières des départements orange. La prudence doit être générale. On surveillera particulièrement le massif de la Tarentaise en Savoie, département passé en rouge pour le risque d'avalanche. Depuis 25 ans, la création du rouge avalanche, c'est seulement la troisième fois qu'il est utilisé pour vous dire l'ampleur du phénomène.
Céline Dacosta.
France Inter. Le 13-14,
Jérôme Cadet.
Bonjour Léa Huppi.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes philosophe, professeur de théorie politique à la London School of Economics. À ce titre, vous allez occuper à partir de ce soir la chaire Invention de l'Europe par les langues et les cultures au Collège de France. Vous allez prononcer ce qu'on appelle une leçon inaugurale. Qu'est-ce que c'est une leçon inaugurale ? En quoi ça consiste ?
C'est la première leçon qui introduit, qui ouvre tout un cours sur ce que j'appelle l'idée de socialisme moral. Et une leçon inaugurale, c'est une leçon introductive à ce thème.
Vous allez notamment parler de l'Europe.
Je vais parler des projets européens comme les Lumières et sur l'importance de retourner au projet des Lumières pour récupérer une critique de la raison qui se fait aussi une critique de la société, de la politique.
Vous qui vivez au Royaume-Uni, je l'ai dit, mais qui êtes originaire d'Albanie, on l'entend peut-être à votre accent. Vous êtes aussi romancière et l'Albanie, il en est question dans votre dernier livre publié début janvier, Indignité. C'est chez Calman Lévy. On va donc parler ensemble de ces deux actualités qui peuvent d'ailleurs avoir un point commun. 01 45 24 7000 pour tous ceux qui veulent nous appeler et vous interroger. Parlons d'abord de ce roman. Le point de départ, c'est une photo noir et blanc. Sur cette photo, on voit Léa Huppi, vos grands-parents. Nous sommes en 1941, ils viennent de se marier. Ils sont en lune de miel dans la très chic station italienne de Cortina d'Ampezzo, dont on parle beaucoup en ce moment avec les Jeux d'hiver. On les voit sur cette photo, ils sont allongés sur un transat au soleil devant un hôtel de luxe. Ils regardent le photographe. Cette photo, vous ne la connaissiez pas, vous la découvrez sur les réseaux sociaux. Ce qui vous frappe, ce sont les commentaires en dessous de la photo. Car nous sommes en 1941, vos grands-parents sont en lune de miel dans l'Italie fasciste, alors que l'Europe est à feu et à sang. Et donc, il y a sous cette photo, sur ce réseau social, un flot de commentaires malveillants, voire insultants. Comment vous recevez cette image ?
C'était pour moi une surprise liée à un mystère. La surprise était de voir cette photo que je n'avais jamais vue parce que en grandissant, on m'avait dit que toutes les photos de la jeunesse de mes grands-parents avaient été confisquées par le gouvernement communiste qui est arrivé au pouvoir en Albanie après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'était la combination d'une photo que je n'avais jamais vue avec le mystère de la jeunesse de mes grands-parents dont je ne savais pas beaucoup et avec les commentaires des trolls qui disaient que ma grand-mère était une espionne communiste, fasciste, un peu toutes les deux. Ce qui posait pour moi la question de la dignité, parce que j'aimais beaucoup ma grand-mère. Elle était morte un peu d'années auparavant. Mais ce qu'elle racontait toujours pendant toute la vie, c'est qu'elle avait vu une vie de souffrance, une vie d'oppression dans le fascisme, dans le communisme. Et elle disait qu'elle n'avait jamais perdu sa dignité. Et donc, de trouver la photo de quelqu'un qui parlait de la dignité dans le réseau social avec les trolls a posé pour moi la question de qu'est-ce que c'est la dignité et qu'est-ce que cela signifie quand la personne n'est plus en vie pour défendre sa dignité. Et de là, par une enquête sur la vie de ma grand-mère pour pouvoir défendre sa dignité et retourner aussi la vérité de sa vie et qui prend une forme de roman, mais aussi d'enquête philosophique sur le concept de la dignité et d'enquête aussi historique sur cette Europe du XXe siècle et d'une vie où on voit un peu les forces macro-historiques et les forces de la vie quotidienne qui vont ensemble.
C'est une question universelle, au fond. On a tous une image de nos grands-parents qui peut-être se forment durant notre enfance et puis après, fatalement, ils disparaissent et on n'a pas forcément accès à ce qu'a été leur vie, à ce qu'a été leur jeunesse. Parfois, il y a des choses qui remontent et qui peuvent être douloureuses. Alors, ça n'a pas été le cas de votre grand-mère, mais peut-être ça a semé le doute dans votre
esprit. Mais oui, parce que la photo, en fait, quand j'ai fait des recherches, j'ai découvert que cette photo était contenue dans l'archive des services secrets de l'Albanie communiste. Elle était là parce que ma grand-mère, elle a été surveillée par les espions communistes pendant toute la vie. Et
ça je précise qu'elle a été condamnée aux travaux forcés et, aussi, et que votre grand-père lui a été arrêté par la dictature en Albanie.
Voilà, c'est ça. Et donc, pour moi, ça posait la question de la vérité de cette vie qui se trouve dans les mémoires qu'on a de quelqu'un, mais aussi dans des documents qu'on ne connaît pas. Et c'est pour ça qu'il y avait un mystère de la vie, qui est la vie qui est contenue dans les archives, dans les documents historiques, et une vie aussi réimaginée. C'est pour ça que le livre prend la forme du roman, parce que c'est la façon meilleure, la littérature, de mettre ensemble l'évidence historique et philosophique avec les impressions subjectives, les mémoires, les personnages, l'individu.
Des fois, il y a des questions qu'on n'ose pas poser à ses parents au sujet de ses grands-parents. Il y a des doutes et puis on se dit on n'a pas envie d'aller sur ce sujet-là. Est-ce que vous vous êtes interrogé avant d'aller aux archives à Tirana, avant de lancer cette enquête ? Est-ce que vous êtes dit, qu'est-ce que je vais trouver?
Bah oui, bien sûr, parce que en plus, je savais de toutes les histoires de d'autres personnes, surtout dans les régimes post-communistes, qui allaient aux archives de la sécurité secrète, pensant de trouver des victimes du système, mais qui en fait découvraient quand ils ouvraient les archives, quand ils ouvraient les documents, ils découvraient en fait des perpétrateurs, des oppresseurs. Donc on pensait de trouver la victime, mais en fait on trouvait quelqu'un qui avait aussi contribué, qui était complice dans les crimes de ce système. Et moi, j'étais complètement préparée pour ça aussi.
Non.
C'est pour ça que j'avais fait, quand j'avais fait la demande, j'avais demandé d'être comme chercheuse, mais et pas comme membre
pas
de la famille.
À titre personnel, c'est à titre de chercheuse que je viens consulter les archives.
Parce que cela me donnait une distance historique et philosophique aussi, et aussi la possibilité de ne pas devenir moi-même complice dans cette injustice historique.
Léa Huppy, votre roman, il pose aussi la question du temps. Quand on publie une photo comme ça, quand on publie un commentaire, c'est instantané. La calomnie, elle est immédiate et elle fait des ravages. En revanche, la vérité, elle met énormément de temps. Il faut aller chercher les documents, il faut écrire, il faut faire ce travail d'histoire. Et on n'arrive jamais assez rapidement.
Oui, et en plus, c'est très important aussi de s'interroger sur le point de vue de reconstruction de la vérité. Parce que même si ce n'est pas que les trolls, que les réseaux sociaux, dans les archives, il y a toujours un point de vue de l'autorité qui manipule la vérité historique pour ses projets propres. C'est le communisme, ça peut être le nationalisme, ça peut être, comme dans son cas, la patriarchie, parce que c'était très difficile de faire des recherches sur une femme en trouvant la vérité objective. Et donc, c'est cette difficulté de trouver un point de vue qui raconte une histoire la plus complète possible sur la vie d'une personne.
Alors, votre grand-mère a une vie très romanesque. Elle est née en Grèce. Son grand-père, à elle, était conseiller du grand vizir. C'est un autre monde, Léa Huppy. C'est le monde de l'Empire ottoman. C'est un monde dans lequel on parlait français aussi. Et c'est aussi pourquoi vous nous parlez en français aujourd'hui.
Oui, c'est ça, c'est vrai. Oui, c'est un autre monde, mais c'est aussi un monde qui a des parallèles avec notre monde, parce que c'est un monde de chute des empires et donc un monde de démondialisation. Donc c'est un monde de démélange des cultures, de la multiplicité du cosmopolitisme de l'empire. Et dont on
L'Albanie faisait partie de cet empire et elle en
oui,
est sortie.
Oui, l'Albanie faisait partie de l'empire ottoman, comme la Grèce, comme les Balkans. Et c'est un moment historique très important parce qu'on voit la chute des empires et l'émergence des États-nations et du nationalisme comme le principe qui régule la vie politique. Et avec ça, on voit aussi la doctrine du nationalisme, de la suprématie nationaliste et la manipulation des minorités ethniques et culturelles pour des projets d'extrême droite. Et c'est aussi ce qu'on voit émerger dans les années 20-30. C'est l'extrême droite, c'est les guerres de commerciales, c'est après la course au réarmement, et après c'est la Seconde Guerre mondiale. Donc on voit un peu un trend que, au moment, on trouve aussi des parallèles avec ce monde-là.
Les deux guerres mondiales, le stalinisme ensuite, hein, et cette dictature en Albanie, j'en ai parlé avec les conséquences dont qu'on a souligné pour votre famille. En quoi cette longue histoire vous a façonné? En quoi est-ce qu'elle influence aujourd'hui votre manière de penser, vous qui réfléchissez beaucoup à la question européenne et de la construction européenne, Léa Huppy?
Oui, je réfléchis sur l'idée de la liberté et de la promesse de la liberté en Europe, sur la question des valeurs universelles et de la relation entre les idéaux de liberté, de dignité universelle et l'idéologie des institutions politiques, soit dans le communisme que dans le capitalisme. Donc je réfléchis sur cette distinction entre la liberté comme idéal et la liberté comme idéologie et à les différentes formes d'oppression auxquelles nous sommes exposés, soit dans le communisme d'État, mais soit aussi dans le capitalisme où on trouve des concentrations de pouvoir économique et politique qui
elles
nous permettent...
Elles ne sont pas du même forme.
Elles ne sont pas du tout du même forme.
Violence.
Dans un cas, on a une oppression qu'on peut appeler verticale, parce qu'il y a le parti, l'État, la nomenclature, mais dans le monde capitaliste, on a une oppression du type horizontal, c'est-à-dire c'est l'oppression du marché, c'est la complicité de tous les consommateurs et de nous tous.
Mais on est dans un système capitaliste en France, pour autant il n'y a pas des centaines ou des milliers d'opposants politiques en prison.
Non, bien sûr, mais par exemple, quand on pose la question de la surveillance, on voit que là aussi, il y a un problème de surveillance et dignité.
Et de liberté.
Alors, dans mon livre, il y a beaucoup la question de la surveillance, de qu'est-ce que ça fait à l'idée d'une personne, cette idée de ne traiter pas les hommes, les personnes comme juste des moyens à un fin. et comment la surveillance nous dénigre. Et là, on se pose aussi la question de la surveillance. Et on voit aussi qu'on est aussi des moyens à un fin, c'est-à-dire le fin du profit ou du marché, où on est l'objet de ces compagnies transnationales qui nous utilisent pour leurs propres buts.
Georges est avec nous et nous appelle du Pas-de-Calais. Bonjour Georges.
Bonjour à tous.
Nous vous écoutons.
Eh bien voilà, d'abord je voulais féliciter madame d'avoir un si bon français. Et la deuxième chose, c'est surtout que je voulais lui demander si, à son avis, l'Union européenne est un cadre réellement possible pour une Europe des Lumières, étant donné qu'on ne voit venir d'elle que des régressions écologiques, antisociales et ainsi de suite. Et même que pour la paix, c'est pas terrible non plus.
Merci voilà. Georges pour cette question. Léa Huppi.
Ben moi, je pense, je crois à l'idéal de l'Europe. Je pense qu'il y a bien sûr une idéologie aussi de l'Europe. Le problème de l'Europe, c'est qu'elle se pose comme une institution de valeur universelle quand il s'agit du processus de l'élargissement, par exemple. Mais on voit aussi qu'il y a une crise des institutions européennes. Mais je pense qu'il faut retourner aux origines du projet européen.
C'est-à-dire
un projet qui est né de la Deuxième Guerre mondiale, qui était inspiré du cosmopolitisme des Lumières. C'était un projet de paix, pas de guerre. C'était un projet de coexistence de beaucoup de cultures, de beaucoup de minorités. Et c'était un projet aussi de contenir, de limiter le capitalisme. Donc je pense que si on retourne aux origines antinationalistes et anti-capitalistes du projet européen, si on retourne au manifeste de Van Tottenham, par exemple, qui a été écrit par les fédéralistes européens Altiero Spinelli et Ernesto Rossi, je crois qu'on peut retourner l'Europe à ses origines et à ses idéaux.
Les Albanais sont en train de se rapprocher de l'Union européenne. Ils vont faire partie de l'Union européenne peut-être dans quelques années, peut-être dans quelques mois. Qu'est-ce qui les attire vers l'Union européenne, dont la défiance bat des records en France? 38% d'opinions positives seulement, selon un baromètre publié la semaine dernière.
Mais c'est le rêve de quelque chose qui ne se connaît pas beaucoup. C'est le rêve de l'Europe comme un monde de paix, d'intégration et de stabilité sociale. C'est ce que les Albanais n'ont pas vraiment eu, ni dans le période communiste, ni dans le période post-communiste, mais c'est un rêve. Alors le rêve, quand on est dehors, quand on est dans le rêve, on y croit toujours, et puis après, quand c'est la réalité, on se rend compte que c'était juste ça. Donc, et c'est ça, c'est pour ça que c'est très important.
Il le voit comme une protection aussi?
Oui, aussi comme une protection, parce que c'est quand même l'histoire de l'Albanie, une histoire de force, de pouvoir géopolitique qui détermine un peu la vie de ses citoyens. Mais c'est surtout, je pense, une mythologie. C'est quelque chose, c'est un horizon de sens. C'est quelque chose qui lui donne une façon de projeter dans le futur tout ce qu'ils n'ont pas pour le moment. Et donc, c'est pour ça aussi qu'ils n'ont pas eu une vraie critique de l'Union européenne, comme ils découvriraient s'ils étaient dans l'Union européenne, comme on a vu les Hongrois, les Polonais, c'était la même chose. Avant d'être dans l'Union européenne, ils avaient le rêve, ils croyaient à ça, et puis après, ils se sont retournés avec les institutions européennes et ils n'y croyaient plus. Et c'est une chance de relancer le projet européen en mettant ensemble la volonté d'intégration des pays candidats avec la crise des pays membres et de relancer le projet européen comme un projet qui fonctionne pour tous.
Merci Léa Huppi d'avoir été avec nous aujourd'hui. Indignité, c'est chez Calman Lévy. Je recommande vivement votre roman. Et puis on peut retrouver toutes vos leçons à partir de ce soir sur le site du Collège de France. Évidemment, merci d'avoir été avec nous. 13h47 sur Inter. Une semaine dans leur ville. Les municipales, vue de Bourgogne, nous sommes à Chalon-sur-Saône aujourd'hui. Le maire sortant et qui se représente, le LR Gilles Platret, a fait du péril islamiste l'un des axes de sa campagne. Cela alimente le débat local. Alors Gilles Platret n'a pas souhaité nous répondre, mais nous retrouvons sur place notre journaliste Laurence Perron et son fameux vélo.
Vélo accroché sur le marché de Chalon. Et là, c'est un homme pieds nus en anorak jaune qui nous accueille.
De la tyrannie. Je suis pour le retour du roi. Je suis royaliste. Je suis le roi soleil.
Alors, ce n'est pas la figure du roi qui fait débat ici, mais plutôt celle du musulman, depuis que le maire Gilles Platret a instruit un rapport contesté sur l'infiltration islamiste en France via, selon lui notamment, le régime des mollahs iraniens.
Vous allez avoir des candidats proche de la confrérie des frères musulmans. Donc, c'est aussi pour ça que lors du dernier conseil municipal, j'ai proposé que les conseillers municipaux ne portent, dans l'exercice de leurs fonctions, c'est-à-dire lorsqu'ils siégeront au conseil municipal, aucun signe religieux distinctif. Je veux, à un moment donné, dire les choses, puisqu'on est sur ce sujet. Notre ennemi n'est pas le musulman, notre ennemi, c'est l'islamisme. Et celui-ci, je vous assure que nous le combattrons corps et âme jusqu'au bout.
C'est mécaniquement un axe de campagne, donc forcément on fait campagne aussi contre le maire sortant et contre son bilan, parce qu'aujourd'hui la réalité c'est qu'on arrive à placer Chalon sur une carte à cause de ses outrances. Je suis Clément Meunier, donc le candidat tête de liste pour Lyon de la gauche, des écologistes, des progressistes et des humanistes. Parti communiste, les écologistes, le parti socialiste et place publique. On peut pas opposer les Cholonaises et les Cholonais en permanent, c'est pas le rôle d'un maire, le rôle du maire c'est quand même d'être un maire du quotidien, un maire qui prépare l'avenir, finalement être un maire qui apaise la cité au sens large. Et là aujourd'hui, il fait tout l'inverse à des fins électoralistes.
Sur le marché, Damien Salet, le candidat LFI, arpente les allées. Il est accompagné de Morgane, l'une de ses colistières.
Alors moi, je suis une pure chalonnaise et je suis donc présidente d'un collectif qui s'appelle Libaouette. Et du coup, on lutte contre les discriminations envers les femmes qui portent le voile. Oui, ça pose énormément de problèmes au niveau, surtout au niveau du maire actuel. Et malheureusement, on est méprisé sans cesse. Donc c'est vrai que c'est une ambiance politique et médiatique qui est ambiante.
Est-ce que vous ne craignez pas, vous Damien Salé, que l'accusation d'islamo-gauchiste, ça ne vous soit reproché?
Évidemment, ça, on s'y attend et ça va immanquablement arriver au cours de la campagne. C'est certain. Mais nous, on assume tout à fait de dire qu'on défend le principe d'égalité qui est inscrit dans notre devise, qui est inscrit dans la Constitution, dans la Déclaration des droits de l'homme. Et le principe d'égalité dit qu'on traite toutes les personnes de la même manière, tout simplement. Et donc une femme qui choisit d'être voilée, c'est son choix, non seulement des principes d'égalité, des droits, mais là, c'est une liberté, voilà, liberté fondamentale. Nous, on estime qu'une personne d'extrême droite qui dit qu'une femme doit retirer son voile et un islamiste qui dit qu'une femme doit absolument porter le voile, c'est la même chose. Voilà, ce sont des hommes qui disent à des femmes comment elles doivent se comporter.
Et à Chalon, le débat se poursuit donc. Une semaine sur les routes de Saône-et-Loire. Demain, nous serons à Tournu.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France. Le jeudi, 13h51, la France à table avec Marie-Luce Ribaud du journal Sud-Ouest. Bonjour Marie-Luce.
Bonjour Jérôme.
On vous a retrouvé, vous nous parlez de l'engouement pour les bouillons. Ces restaurants au départ parisiens, mais que l'on trouve désormais partout.
Oui, partant à Laval, en Mayenne, vendredi dernier, du jour au lendemain, le Palatium est devenu le bouillon du Palatium. Pour le patron, Ronan Corbière, il s'agit de recréer l'ambiance conviviale de ces restaurants populaires où les tables sont à touche-touche, le niveau sonore plutôt élevé et les prix attractifs. D'ailleurs, il ne s'en cache pas, la conjoncture économique est ce qu'elle est, j'ai voulu redonner un coup de boost à mon établissement. Jérôme, l'an dernier, 9250 restaurants ont fermé, un pic historique. On comprend mieux pourquoi certains cafetiers cherchent à se réinventer.
Le bouillon serait donc la solution?
Sur le papier, le bouillon coche toutes les cases du succès. Le modèle est redevenu très à la mode et il privilégie le nombre de couverts plutôt que le coût de l'addition. En cela, il se rapproche des chaînes de restauration rapide, celle-là même qui précipite la chute des établissements traditionnels. Le bouillon serait la version française du fast-food, avec flonflon, vin en carafe et sets de table belle époque sur lesquels est inscrit le menu. Lorsque Loïc Bienassi, historien du fait culinaire à l'université de Tours, tente de définir la recette, il choisit ses ingrédients. Une très grande salle, un flux de clients continu, des prix bas et de la nostalgie. Quand on regarde aujourd'hui le prix d'un menu burger, il n'est pas si loin d'un repas complet dans un bouillon, fait-il d'ailleurs judicieusement remarquer.
Vous nous rappelez comment sont nés ces restaurants ?
Avec l'avènement à Paris de la classe des employés dans la seconde moitié du 19e siècle. En 1954, le boucher Baptiste Adolphe Duval ouvre un premier établissement rue de la Monnaie. Son idée, faire des bouillons avec les bas morceaux de bœuf que ses clients n'achètent pas. Rapidement, il propose des plats chauds. Le succès est fulgurant. En 1900, Duval est propriétaire de 250 bouillons dans Paris. Partout, ce sont les mêmes plats servis par des femmes baptisées les petites bonnes. L'empereur a son propre abattoir, sa cave, sa boulangerie, sa blanchisserie. La standardisation est en marche. Les bouillons sont des ruches, mais pour Huysmans, l'écrivain du Spleen, ils sont des lieux de tristesse urbaine. Il dénonce, je cite, une arithmétique du ventre, une géométrie du pot-au-feu.
Et puis, ils passent de mode.
Oui, après 1914, avec l'inflation galopante, il est impossible de maintenir des prix aussi bas. Dans les années 30, naissent les brasseries, au fonctionnement moins rigide que les bouillons. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, le fast-food vient de traverser l'Atlantique et on les oublie. Mais un seul résiste, à Paris, le bouillon Chartier. Contre vents et marées, il a préservé cet imaginaire et sans lui, il n'aurait peut-être pas réussité, nous dit Loïc Bienassi. Aujourd'hui, pour un ticket moyen entre 18 et 25 euros, on retrouve dans les bouillons le goût de la tradition, celle de l'œuf mayonnaise, du bœuf bourguignon et de la profiterole au chocolat.
Et notre traditionnelle recette nous vient donc de Laval.
Oui, voici la purée de Nicolas Gaudin. Faites cuire 1 kg de pommes de terre rates dans de l'eau non salée. Épluchez-les tant qu'elles sont encore chaudes. Passez-les au moulin à purée. Faites dessécher cette pulpe de pommes de terre dans une sauteuse. Ajoutez 250 ml de lait entier et 250 g de beurre froid, assaisonné avec du sel et du poivre blanc. Et puis, comme la cuisine populaire puise beaucoup de ses racines dans ce département, on choisira d'accompagner cette purée d'une saucisse venue de l'Aveyron.
Et vous avez tout mon soutien dans ce choix. Merci Marie-Luce Ribot, en direct de Bordeaux pour ce C'est la France. C'est une chanson aujourd'hui, Julien Baldacchino. La chanteuse Raphaël Lanader à votre micro.
Oui, elle orchestre actuellement une série de concerts réunissant une dizaine d'artistes autour des chansons contestataires. Et c'est l'une de ses chansons qu'elle a tenu à évoquer, Singing for Our Lives de Holly Near, qu'elle a découverte après une tragédie.
Je m'en souviens précisément, ça s'est passé juste après la tuerie du Pulse à Orlando en 2016. Et en fait, j'étais absolument bouleversée parce que il y avait des chorales spontanées, particulièrement d'hommes costauds et gays, qui se réunissaient dans les rues américaines, enfin notamment par exemple à San Francisco, à Orlando évidemment. Et en fait, beaucoup de ces chorales chantaient spontanément cette chanson. Je suis tombée sur une version, enfin je pleurais à chaudes larmes. C'est une chanson très simple qui dit juste « We are gentle, angry people and we are singing for our lives », ce qui veut dire pas grand-chose. Nous sommes des gens gentils et en colère et nous chantons pour nos vies. « We are gentle, angry people and we are singing » Singing for our lives.
C'est une chanson qui, vous l'avez dit, est simple. J'ai le texte devant moi, ça tient en quelques lignes. Mais on a ce sentiment d'une chanson qui est faite justement pour être chantée, reprise en chœur par une foule de gens.
Bien sûr, c'est un hymne. D'ailleurs, Holly Near l'a écrite, je crois, en 78, après la mort de Harvey Milk. Voilà, c'est vraiment un hymne LGBT et j'avais demandé justement à Holly Near si je pouvais l'utiliser. Donc c'était dans mon troisième album qui s'appelait Chanson et il y a une chanson qui s'appelle Orlando dedans. Enfin voilà, qui est originale, mais la fin, je voulais qu'il y ait cet hymne sur le disque et Holly Near avait accepté.
Qu'est-ce qui fait qu'une chanson qui a été écrite suite à un événement dans les années 70 elle est toujours d'actualité, elle est toujours aussi forte aujourd'hui? C'est la chanson qui fait qu'elle est toujours aussi forte ou c'est le monde qui tourne autour?
Je pense qu'il y a une force très simple dans cette chanson. Je suis certaine que certaines chansons, certains petits airs ont quelque chose de magique, comme une formule, comme un sortilège, et qu'elle reste parce que ça vient toucher des fibres, je pense, d'avant nous, enfin d'une espèce de mémoire collective de je ne sais pas quoi, de magique.
Cet enregistrement original par Holly Near est un enregistrement en public.
Oui, et même s'il est question de colère dans cet hymne repris en chœur, c'est aussi un chant de tendresse et d'espoir.
La non-violence, c'est une expression de la colère. Donc je crois qu'on peut être au contraire très calme et très en colère. Et en plus du calme, elle marque aussi la tendresse et la joie. Et en fait, je crois que ce sont des armes extraordinaires à notre disposition. Actuellement, enfin moi je le ressens quand on joue ce spectacle en ce moment, nous en avons besoin, nous autres artistes sur scène, mais je crois que les gens qui viennent sont très heureux et je sens une communion vraiment particulière actuellement autour de ces textes, de ces chansons, de ces hymnes collectifs. Et d'ailleurs, le public chante avec nous. Et c'est comme si presque les gens chantaient mieux que d'habitude. On ressent vraiment quelque chose de très doux, comme une onde, je sais pas, assez merveilleuse, qui se propage comme ça dans toute la salle, enfin, et qui circule entre nous et les gens, entre nous sur scène, enfin, c'est vraiment merveilleux.
Singing for Lives, le choix de la chanteuse Raphaël Lanader.
Et il reste deux dates pour ce spectacle autour des protest songs. Demain au Rocher de Palmer près de Bordeaux et dimanche au Châtelet à Paris.
Merci Julien Baldacchino, à demain.